Bonjour à chacun. Ah, je me dis toujours que c'est une grâce de pouvoir vivre ce culte ensemble, de vivre ces temps de louange ensemble, ce partage ensemble. Et effectivement, Antoine disait quelque chose de juste. Quelle grâce nous avons, me semble-t-il, d'entendre les paroles données par l'Église. J'aime beaucoup cette idée que l'Église donne. Et il est bon que nous entendions d'apprendre à être reconnaissants, de ne pas être oublieux. Et si jamais quelqu'un en doutait, il est bon de nous souvenir que nous avons bien fait de venir ce matin. Quelque chose qui me touche. Si quelqu'un a oublié un tournevis pour une voiture, je peux lui filer un petit coup de main, mais ce n'était pas prévu au programme. Voilà, simplement, ce que j'avais à cœur de partager, c'est sur 1 Corinthiens 14. Et donc, je vais vous le lire et puis je vais vous dire un petit peu comment va s'articuler ce thème. Alors, si on devait donner un titre, si je devenais un titre, ça serait « Aspirer au don spirituel ». Alors bien sûr, c'est un rapport avec ce qui est partagé ces derniers temps, mais c'est un rapport avec ce qui a marqué dans 1 Corinthiens 14. Et je vous propose de le lire. Ce thème donc abordera la vie spirituelle dans l'Église, les prophéties, comme l'ont vécu ce matin, le parler en langue. Et puis, si vous êtes d'accord, on fera une petite balade dans l'Ancien Testament. Et nous irons un petit peu questionner Joseph et Ézéchias, qui, j'en suis convaincu, ont beaucoup de choses à nous dire sur ce sujet. Hein, c'est Fred qui dit souvent que le Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et combien il est vrai que certaines histoires dans l'Ancien Testament, en rapport avec la parole de Dieu, peuvent nous éclairer, nous illuminer et nous guider dans le chemin qui est le nôtre. Vous êtes d'accord avec moi ? Moi, ça me fait plaisir. Rechercher l'amour, aspirer aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Aspirer ailleurs, désirer ardemment. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle avec aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Hein, celui qui prophétise, à l'inverse, donc, édifie, hein, édifier, construire, encourager, exhorter. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, ce qui est bien, il s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Hein, édifier, ça parle de construction, de bâtiment, de maison. L'Église se construit. L'ennemi n'a de cesse de vouloir la détruire, on le sait. Mais Jésus construit l'Église. Et nous sommes, c'est pas prévu de le dire, mais nous sommes des pierres vivantes. Hein, nous savons que l'Église n'est pas un bâtiment, si beau soit-il. Mais l'Église, c'est chacun d'entre nous. Et je suis impressionné de voir autant de... ce matin, chacun de vous. Mais l'Église, ce sont des pierres vivantes et que Dieu prend soin de polir et d'ajuster les unes aux autres. Alors, ce que je voulais dire en premier lieu, c'est que Paul est un excellent orateur, mais il est un bon écrivain. Et dans sa construction de l'épître, je le trouve très bon et excellent. Parce qu'il aurait pu commencer en disant effectivement, on va parler de la vie spirituelle, mais il existe 1 Corinthiens 13 et 1 Corinthiens 12 avant. Et on le sait, 1 Corinthiens 13, je ne vous l'apprendrai pas, mais il est bon de le dire, hein, de le redire. Hein, quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne une cymbale. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, vous vous rendez compte, jusqu'à transporter les montagnes, Si je n'ai pas l'amour, ça ne sert de rien. Et même quand j'ai distribué, si je distribuerais tous mes biens pour nature des pauvres, quand je livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Alors certaines traductions parlent de charité. Mais je me dis que Paul, avant que d'aborder ce qui fait parfois polémique, les dons spirituels et le parler en langue, il dit, c'est l'amour sur lequel on va édifier, on va établir, comme pour faire une maison, les édifices. Je cherche le mot, quand on fait une maison, on fait des fondations. Et sur les fondations, on va construire la vie de l'esprit. Et les prophéties auront leur bonne place. Alors, il est intéressant de noter qu'il n'y a pas de contradiction. Paul ne dit pas « soyez l'amour, soyez don de l'esprit, soyez les prophéties, comme tu veux, tu choisis, c'est l'un ou c'est l'autre. » Eh bien, ce n'est pas ce que dit Paul. Il dit que l'amour règne dans l'Église, nous sommes appelés à le vivre, et dans l'Église, il y a en son temps la bonne place pour la prophétie, comme nous l'avons vécu ce matin, qui apaise et restaure. Il y a la place pour le parler en langue. Paul dira, je parle en langue plus que vous tous. Mais je préfère dans l'Église une parole qui édifie et qui construit. Intéressant, cette nuance. Vous savez, nous avons dans l'Église, comme ailleurs, une liturgie. Et contrairement à ce qu'on croit, la liturgie, ce n'est pas un gros mot qui indique un culte poussiéreux et ennuyant. Mais le mot liturgie, c'est un beau mot tiré de la langue grecque, qui à l'origine veut dire une œuvre commune. C'était des notables en Grèce qui s'occupaient par exemple de la marine ou des bateaux. Et lorsqu'ils édifiaient un bateau ensemble, qu'ils appareillaient un bateau, militairement ou civilement, eh bien, on appelait ça liturgos, une œuvre commune. L'Église l'a repris à son compte et la liturgie est devenue les règles qui régissent, qui établissent un temps de célébration et de culte. Et justement, au-delà de la liturgie, je me dis que la vie de l'esprit, est-ce utile de rappeler que nous sommes une Église charismatique, va donner de l'huile, va permettre que la forme de notre culte ne soit pas rigide ni enfermée, mais qu'il soit vivant. La vie de l'esprit, l'huile de l'esprit arrondit et donne la vie à ce qui peut paraître figé et trop structuré. Alors avant de développer ce que voulait dire Paul, je vous donner un petit témoignage qui remonte à ma conversion il y a quelques années. 35 ans, et c'était à l'Arche de Noé, pour ceux qui ont connu l'Arche de Noé à Codognan. Donc je suis arrivé avec mon frère Marc, pour la petite histoire. Et puis à l'époque, on faisait du stop, comme je n'avais pas les moyens de prendre de taxi. À l'époque, eh ben, je faisais du stop et des gens m'ont amené à l'Arche de Noé. Et donc il y avait un couple qui s'appelait Daniel et Janine qui nous ont accueillis. Et où on a réappris des règles de bonne société, des règles d'hygiène de vie. Et bien sûr, pour ma part, qui venait de me convertir, j'ai appris, avec ce couple et d'autres, à lire la Bible, à prier, à savoir ce que Dieu pouvait me dire. J'étais un ignorant complet. Je le suis, mais un petit peu moins aujourd'hui. Et donc, il y avait le matin, avant d'aller au jardin, il y avait un petit jardin, l'arche, où on allait travailler, ramasser haricots, planter des tomates, pour donner un rythme de vie et une structure aux gens qui, comme moi, avaient fait la route. Vous connaissez cette vie, peut-être vous ne la connaissez pas. Et le matin, on avait donc un petit temps de prière. Et le responsable, Daniel, nous disait, eh bien, vous allez apprendre à écouter la voix de Dieu pour vous, ce que Dieu va vous dire dans la parole, et combien apprendre à écouter ce que Dieu va dire pour le groupe. Et c'est un apprentissage qui conduit à la vie de l'esprit. Et c'est une grâce que j'ai eue d'apprendre avec Daniel cette idée à travers la Bible, de savoir que Dieu nous parle. Et en nous parlant, eh bien, nous encourageons nos frères. Et comme le thème, nous l'avons compris, c'est la vie charismatique, à un moment donné, donc ce responsable, il dit, mais on va rendre grâce, hein, on va, comme nous l'avons fait ce matin, bénir le Seigneur et le remercier pour ce qu'il est, pour sa bonté et sa fidélité. Et moi, avec mes quelques mots en français, je dis, Seigneur, eh bien, merci parce que tu es bon, tu es grand, tu es fidèle. Et puis à un moment donné, les mots m'ont manqué. Et j'ai dit, Seigneur, tu es bon, et le parler en langue est venu. Mes amis, je serais incapable de vous le dire en grec, en hébreu ou en russe moderne, mais ce que j'ai vécu, je l'ai vécu par la grâce de Dieu. Et ce que je veux vous dire, c'est que ce que je vous partage ce matin, c'est pas doctrinal, c'est pas dogmatique. Il y a des gens beaucoup plus compétents que moi dans l'Église pour aborder ça d'une façon doctrinale, et tant mieux, mais c'est pas mon souci ce matin. Ce que Dieu m'a accordé dans cette grâce de vivre de l'esprit, ce n'est pas quelque chose de rationnel. Il existe dans la dimension de l'esprit, vous le savez, quelque chose qui n'est pas rationnel, qui ne s'explique pas, qui n'est pas 2 plus 2, mais qui honore et qui glorifie Dieu. Alors simplement, nous ne nous trompons pas dans ce que veut dire Paul. Il désire remettre un peu d'ordre, hein, il désire remettre l'église au milieu du village. Parce que nous voyons dans les paragraphes et les versets d'avant que Paul dit aux uns aux autres, voilà, c'est pas Paul, c'est pas Apollos, mais c'est Dieu. Et là, probablement, y a-t-il eu, en termes de manifestation d'esprit, des personnes qui avaient peut-être un peu de gloire personnelle, ça arrive parfois, ça peut m'arriver. Peut-être certains parlaient en langue on veut-tu, en voilà, sans discernement, sans sagesse. Peut-être certains donnaient des prophéties qui duraient tout le culte, on ne sait pas. Mais Paul a à cœur de dire, oui, la vie de l'esprit a sa place, la prophétie a sa place, le parler en langue a sa place, mais que tout se fasse avec ordre et dans la paix. Hein, il y a un verset qui dit, mes frères et sœurs, quand vous vous rassemblez, que ferez-vous ? Si l'un a un cantique qu'il chante, s'il a une prophétie qui le donne, s'il a un verset qui le donne, c'est ce que nous vivons. Vous savez, j'ai connu des églises où il fallait marcher au pas. Et il fallait bien être sur sa chaise, pas dépasser comme ça, vous savez. Et il n'y avait pas cette liberté que nous avons. Moi, je bénis le Seigneur pour cette liberté qui est au milieu de nous, qui édifie et qui est une bonne liberté. Il s'agit d'en user et de ne pas abuser. C'est ce que dit Paul. Usons de cette liberté, mais n'en abusons pas, et que tout soit fait pour l'édification. Je vous disais tout à l'heure que je vais me servir de... Je ne vais pas me servir, le mot n'est pas bon. Deux personnages vont nous aider à comprendre. Nous sommes français, cartésiens, et on a tendance à dire, eh bien, il y a la vie de tous les jours avec mon travail, la maison... Il y a la vie de l'esprit, il y a la parole de Dieu, et puis il y a quand je fais du sport. Eh bien, ce n'est pas tout à fait ça. Et combien l'ensemble de notre vie est relié, et combien dans la pensée de Dieu, Dieu se sert de tout pour nous construire. Et combien, si nous aspirons, comme nous sommes encouragés à donner, à vivre cette vie charismatique, combien il est bon d'apprendre à vivre les fruits de l'esprit. Pour la petite histoire, je ne suis pas quelqu'un de patient, je ne vous donnerai pas beaucoup de leçons sur ce sujet. J'apprends. Et bien simplement, si je devais résumer un peu le message, c'est la vie de l'esprit pour nous et dans l'Église, elle est liée aussi à la fruit de l'esprit, elle est liée à ce que Dieu travaille nos vies. Un personnage, vous disais-je, va être travaillé par Dieu, il s'agit de mon ami Joseph. Alors je dis mon ami Joseph parce que j'ai tellement lu et relu ces chapitres ces derniers jours que j'ai l'impression qu'il était à la maison avec moi. Alors j'aimerais vous livrer le fruit de ma méditation, si vous me permettez. Alors donc, Joseph, c'est dans Genèse 37, notamment. Donc, en deux mots, nous savons que Joseph est le fils de Jacob, qu'il a eu avec Rachel, je crois. C'est le petit dernier. Enfin, il y aura Benjamin, mais en gros, voilà. Et il va être, Joseph va être élevé comme un grand frère, comme le préféré. Il va être élevé un peu comme le plus grand. Le plus grand des fils, c'est Ruben. Mais Joseph va être élevé un peu comme le grand frère. Et il va avoir des prérogatives, se sentir l'âme d'un grand frère, avec les bons côtés et les moins bons côtés pour ceux qui ont eu un grand frère. Donc, nous allons lire dans Josué, dans Genèse 37. Ça va, vous êtes toujours avec moi? Vous me suivez? Bon, on y va alors. Donc, Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Bon, Jacob, on le sait, Abraham, Isaac et Jacob. D'accord, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, un gamin, un adolescent, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa, enfin les deux servantes de Rachel et Léa, puisque Jacob a eu 4 femmes quand même et 12 enfants. Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos, comme un grand frère. Israël aimait Joseph plus que tous les autres parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Alors, une parenthèse pour dire que normalement, la tunique, c'est quelque chose qui est dévolu aux grands. Dans la tradition de l'Orient, de cette époque, la tunique, c'était pour le grand. Et là, bien sûr, vous allez comprendre que ça va attiser la jalousie des frères. Et c'est là où il y a le rapport avec la vie de l'esprit. Vous allez voir où je veux en venir. Et justement, le rapport avec l'esprit, il est en rapport avec le don d'esprit et du songe. Puisque Joseph, c'est le faiseur de songes, et toute sa vie, il va avoir des songes ou les expliquer. Joseph eut un songe, il le raconta à ses frères, qu'il a eu à haïr encore davantage. Alors en effet, Joseph, je ne le lis pas, je vais raconter, il va avoir deux songes. Il va dire à ses frères, « Eh bien, je me voyais, j'étais comme un épi de blé, et il y avait les 11 autres épis qui se prosternaient devant moi. » Alors, c'est simple, l'explication, ça veut dire, mais tous les frères, ils le comprennent bien d'ailleurs, vont se prosterner devant moi. Alors, vous comprenez que les frères, ils l'ont mauvaise. Et ils disent à Joseph, qu'est-ce que tu racontes comme... Est-ce que ça veut dire que nous les plus grands, toi le Kaganis, toi le petit, nous, on va se prosterner devant toi, mais où tu as vu jouer ça, quoi, ça... Alors, Joseph, il ne se démonte pas, continue son chemin, et puis il rebelote. Carrément, il va voir son père et ses frères, il dit, non, mais attendez, c'est pas fini, c'est le début. Il dit, j'ai un autre songe. J'ai vu le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosterner devant moi. Alors son père, il dit, mais ça veut dire que moi, ton père, ta mère et tes frères et sœurs, nous allons nous prosterner devant toi. Et là, carrément, ils le prennent un peu pour un... Je ne sais pas pourquoi, mais... Alors, nous comprenons aisément que cela va exciter la haine de leur frère qui n'avait pas besoin de ça. Alors, moi, je me suis fait ma propre analyse. La première des choses, c'est que nous savons que dans l'avenir, ce qu'a dit Joseph est juste. Parce que les choses se réaliseront. Mais pour autant, pensez-vous, moi j'ai ma réponse, que c'était sage de donner ça? Moi, j'en suis pas sûr. Moi, je pense que le fait d'être considéré comme un grand frère qui avait la charge de son frère, ça lui a monté un peu la tête. et que sur ce coup-là, Joseph n'a pas été sage. Il avait un peu d'insouciance et peut-être un brin d'arrogance. Et nous allons voir que toute la vie de Joseph, je vais prendre encore deux exemples, va être façonnée par les songes. Et combien, et c'est là où je veux en venir, nos propres vies, mes amis, sont conditionnées par notre histoire. Et combien, lorsque nous donnons, lorsque nous partageons, nous pouvons être influencés par notre propre vie. Et bien sûr, l'histoire, je la raconte rapidement. À un moment donné, les frères partent avec le troupeau. Et Jacob dit à Joseph, eh ben, tu vas rejoindre tes frères, tu vas les surveiller un petit peu. Tu vas faire ton travail de grand frère, alors que tu es le petit frère. Il y va, les grands frères le voient arriver de loin avec ses grands sabots. Bingo, que disent-ils ? Voici le faiseur de songes. Voici le faiseur de songes. Et de suite, c'est comme un meurtre prémédité. Ils se disent, on va le prendre, le faiseur de songes, on va le mettre dans une citerne, on va le tuer. On verra bien ce que ces songes vont devenir. Ils le voient arriver, ni une ni deux. Ils le prennent, ils lui enlèvent la tunique. C'est bien, bien joué leur coup. Hein. Ils vont tuer un bouc, ils mettent du sang, hein, vous connaissez. Ils prennent Joseph et par l'intermédiaire de Rubin, ils ne le tuent pas, mais ils le mettent dans une citerne. Joseph, alors qu'il y a une caravane de Madianites qui passe, Joseph est vendu et part en Égypte comme esclave. Les frères vont jusqu'au bout de ce qu'ils ont manigancé. Ils vont voir Jacob et il dit, Jacob, regarde si c'est bien la tunique de ton fils. Hein, ils l'ont mauvaise quand même, ça montre que cette tunique, ça symbolise quelque chose d'injuste pour eux, qui est vrai d'ailleurs. Et effectivement, Jacob est convaincu que Joseph est mort. Là aussi, l'histoire est intéressante pour en venir au don de l'esprit, c'est que Joseph va être vendu et il y a un homme qui s'appelle Potiphar qui va l'acheter. Donc, il achète un esclave pour 20 cycles d'argent. Il va être à son service et il voit que Joseph est fidèle et il l'établit sur sa maison. Après, c'est vraiment un vrai film, un peu comme Dallas, vous voyez, c'est tout un scénario. Et Joseph est accusé à tort d'un viol de sa femme. Il est mis en prison. Joseph en prison a une telle conduite que on lui dit, il devient un petit peu le second de la prison. Et à un moment donné, il a sous ses ordres deux hommes qui étaient au service du roi. Et c'est là où je voudrais attirer votre attention. Un panetier, on dirait aujourd'hui un boulanger, et un échanson. Et l'échanson, c'était celui qui donnait du vin, qui servait le vin au roi. Et le panetier était celui qui donnait le pain. Et les deux étaient quand même des gens importants parce qu'ils avaient la responsabilité de veiller sur la nourriture du roi et de faire attention à ce que le roi ne soit pas empoisonné. Hein, c'était plus que du pain et du vin. Ils avaient une responsabilité, ils étaient des notables. Et à l'époque, on ne sait pas pourquoi ils sont mis en prison, et ces deux hommes ont des songes. Et Joseph va leur interpréter les songes. Et c'est ça qui m'a touché. On peut dire quelque part que par le manque de sagesse de Joseph, il a été mis en prison à cause de ses songes. Il va l'interpréter, il va dire à l'un, eh bien, c'est pas compliqué, toi d'ici trois jours, tu vas mourir et les oiseaux vont manger la chair de ta tête. Alors, j'espère que personne n'aura une prophétie comme ça à l'église ce matin. Et il dit au deuxième, eh bien, écoute, tu vas être rétabli dans ta charge et d'ici trois jours, tu vas partir, tu vas de nouveau servir le pharaon et tu prendras une grappe de raisin et le vin va couler dans le verre et tu seras au service du roi. Et les choses s'accomplissent ainsi. Et juste avant que ces deux hommes soient libérés, Joseph dit au panetier, à l'échanson, souviens-toi de moi. Et dis à Pharaon que je suis innocent. Et souviens-toi de moi, parle de moi au Pharaon. Et bien sûr, cet homme va partir et le bonheur fait qu'on oublie. Tout à l'heure, on disait qu'on était oublieux. Et cet homme va oublier Joseph qui croupit en prison. Parce que quand on est heureux, on oublie les gens malheureux. Ça, c'est le cœur humain. Et donc, simplement, au bout de 2 ans, là, le pharaon a là aussi des songes. Et les songes, on le sait, ça concerne 7 vaches maigres et 7 vaches grasses, hein, et des épis brûlés et des épis en bonne santé. Alors, je raconte pas, ça prendrait trop de temps. Et le panetier se souvient, l'échanson se souvient, il dit à Pharaon, je connais quelqu'un qui pourra vous expliquer cela. Et il rappelle cet épisode où il est en prison. Pharaon sort Joseph de la prison et il demande à Joseph de lui expliquer ce que fait Joseph. Mais là où il y a la transformation et le fruit de l'esprit dans la vie de Joseph, c'est que Joseph va dire, oh moi je ne peux rien, mais c'est l'esprit de Dieu en moi qui va donner et expliquer. Alors bien sûr, Joseph donne explication. Il dit, 7 années d'abondance, 7 années de misère et de sécheresse. Et il dit, s'il plaît au roi, au pharaon, eh bien, que le pharaon établisse un homme sage pour gérer les 7 années d'abondance et pour faire des provisions pendant les années difficiles. Pharaon lui dit, mais où trouverai-je cet homme sage? Tu seras cet homme. Joseph, après 11 ans de prison, on ne sait pas, hein, ça peut être 5, 10, mais à peu près ça, devient, on va dire, le premier ministre, devient un homme influent. Il est une bénédiction pour le pharaon, pour l'Égypte. Là aussi, je raccourcis exagérément. Il est en bénédiction pour sa famille, pour ses frères qui vont venir. Il y a un pardon. Son père Jacob arrive en Égypte. Et alors là, je veux en venir au niveau des songes, puisque au départ, rappelez-vous que c'était un rapport avec la vie de l'esprit. Ce qui a conduit Joseph en prison, ce sont les songes qu'il a donnés à ses frères. Ce qui l'a sorti de prison, c'est les songes qu'il explique. Il prend le temps d'expliquer au panetier et à l'échanson. Ce qui lui donne une vraie liberté et qui fait qu'il est en bénédiction pour son peuple, pour l'Égypte, c'est qu'il donne l'explication des songes au pharaon. Alors, ce que je voulais dire, c'est la chose suivante. En effet, les uns les autres, nous avons parfois des talents que Dieu nous donne. Et Joseph a reçu un don qui était juste et sage. Mais par rapport à la prison et à l'épreuve, il aurait pu dire stop, il aurait pu dire c'est terminé, je range ça dans un placard, ne me parlez plus de songe, c'est fini. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Et dans un premier temps, ces songes, c'était d'épater la galerie, de dire à ses frères et à son père, vous allez tous vous prosterner devant moi. Vous allez tous vous prosterner devant moi. Et à la fin, il dit au pharaon, mais que puis-je, je suis un homme. Je suis un pauvre malheureux, je suis un homme. Mais Dieu va expliquer au pharaon. Alors que s'est-il passé? Le brisement, l'épreuve, 11 ans de prison. La prison, ça peut changer un homme, n'est-ce pas? En tout cas, Dieu fait une œuvre magnifique. Alors je me dis, si vous voulez être transformé et que vous voulez faire un stage en prison, je suis l'homme de la situation. Vous venez me voir, je peux vous arranger le coup. Bon, la prison est surpeuplée, mais un peu plus, un peu moins. La prison transforme. L'épreuve a transformé Joseph. Et avant de venir à Ézéchias, hein, je regarde le temps. Nous pouvons nous dire, mais je ne suis pas concerné, je ne suis pas Joseph, moi. Moi non plus, ça tombe bien. Je ne suis pas un prophète. Et c'est vrai. Mais nous sommes tous appelés à prophétiser. Paul dira, nous sommes tous appelés à prophétiser. Nous sommes tous appelés à avoir une vie de l'esprit, charismatique. Qu'importe le nom, on s'en fout du mot charismatique. Ce n'est pas le mot, c'est ce qu'il y a derrière qui nous intéresse, mes amis. Nous sommes tous invités à marcher par l'Esprit. Et par la grâce de Dieu, nous serons tous éprouvés pour nous transformer. Et cette transformation, comme Joseph, va nous permettre, pour nos vies et pour l'Église, d'être des éléments d'apaisement et de vie pour l'Église et pour nos vies. Si vous me permettez, nous allons aborder Ézéchias et après je reviendrai à 1 Corinthiens 14 et puis je terminerai là-dessus. Donc Ézéchias, c'est dans 2 Rois 18. Alors juste, on va situer un petit peu Ézéchias dans l'histoire, comme ça, rapidement, succinctement. Ça va, vous êtes toujours avec moi ? Me suivez ? Alors, Ézéchias, c'est, vous savez, il y avait une période des rois. Bon, il y a eu David, Salomon. Et je lisais des commentaires qui disaient qu'il y a environ 35 rois qui se sont succédés. Hein, pour, dans les deux royaumes, Juda, Israël. Et ça, environ pendant 400 ans. Et ça, Ézéchias a été roi environ dans les années moins 700 avant Jésus-Christ, hein, pour nous situer. Et dans la Bible, il y a deux rois dont on fait une éloge extraordinaire. Hein, certains le savent. Ézéchias, Ozias. Nous allons laisser Ozias, peut-être une prochaine fois. Mais là, ça sera Ézéchias. Alors vraiment, l'écrivain divin, hein, j'aime bien cette expression, tarit d'éloges extraordinaires. Et vraiment, Ézéchias, c'est extraordinaire ce qu'il est dit de lui. Mais, parce qu'il y aura un petit mais. Alors, 2 Rois 18. Voilà, Ézéchias, donc, en 18.3. Ézéchias, fils qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Hein, dans la Bible, quand on dit son père, ça veut dire son ancêtre, quoi. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé les parfums devant lui. Il mit sa confiance, peut-être c'est le plus important, je ne saurais pas dire, il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. L'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Hein, vous lirez après la suite. Je vous disais, Ézéchias, c'est vraiment un grand roi qui a fait des choses extraordinaires. Pourtant, à un moment donné, à l'image de nos vies, Ézéchias va commettre un petit faux pas. Et je vais vous raconter l'histoire. On va dire qu'il travaillait en étroite collaboration avec un prophète qui s'appelle Ésaïe. Et à un moment donné, Ésaïe vient le voir sur la fin de son règne. Il lui dit, Ézéchias, prépare-toi, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. C'est quand même pas banal. Et Ézéchias se lamente, il se tourne vers le mur et il dit à l'Éternel, eh bien, Éternel, tu sais combien j'ai été droit, j'ai marché à ta suite. Et il s'humilie. Et Ésaïe, le prophète, était en train de partir. Ça se joue sur quelques minutes, hein, un quart d'heure, on ne sait pas. Et Dieu rappelle Ésaïe, il dit non, changement de programme, tu vas aller voir Ézéchias. Hein, c'est vrai, vous le lirez. Et finalement, il ne va plus mourir, tu vas lui dire. Et il va vivre 15 ans de plus. Ésaïe, qui est quand même d'une fidélité à toute épreuve, et qui n'a pas peur du ridicule, parce qu'il retourne voir Ézéchias, il lui dit, je vais te donner Dieu, parce que hein, la vie n'est pas dans le pouvoir de l'homme. Hein. Dieu te donne 15 ans à vivre de plus. Et il y a un très beau cantique, d'ailleurs, où Ézéchias bénit le Seigneur, il remercie le Seigneur. Mais ce n'est pas tout à fait là où je veux le conduire. Et à un moment donné, Ézéchias va commettre un faux pas, vous allez voir. si je retrouve. Je crois que je l'ai noté dans Ézéchias 20, je vais vous le lire, si je trouve. Voilà. Simplement, il est rétabli et il y a le roi de Babylone qui vient le voir et qui lui fait un cadeau. Et donc Ézéchias ouvre sa maison et dit, il montre tous ses trésors, sa richesse, combien Dieu l'a béni. Et ce qu'il ne fallait pas faire. Et Ésaïe vient le voir, il lui dit, mais qu'as-tu fait ? Et il dit, voilà, j'ai ouvert ma maison au roi de Babylone et je lui ai montré mes trésors. Et Ésaïe lui dit, il va y avoir une conséquence. Il va y avoir une conséquence. Et il lui dit la conséquence. Et la conséquence, c'est que hein, voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison, tout ce que tes pères ont ramassé. Alors, que fait Ézéchias ? C'est là que je veux attirer votre attention. Ézéchias, il répond, il justifie pas, il dit, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Et c'est ça que je veux dire, c'est que dans nos vies, parfois, nous chutons et nous nous trompons. Parfois, nous ne faisons pas les bons choix. Vous vous rendez compte, si Ézéchias, tout Ézéchias qu'il est, a fait un faux pas, je ne sais pas comment le dire, une erreur. Nous sommes des hommes et à un moment donné, nous pouvons en tout cas commettre un faux pas. Et Dieu peut nous reprendre, mais que dit Ézéchias, repris par Ésaïe, la parole de Dieu est bonne. Alors je vais arrêter là, mais pour revenir à 1 Corinthiens 14. Recherchez l'amour, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Alors, ce qui était sur mon cœur, c'était de dire que il serait pas très juste d'aborder la vie de l'esprit, la prophétie et le parler en langue comme quelque chose de simplement technique, avec une quantité qui fait qu'on est dans le coup ou qu'on n'est pas dans le coup, qu'on prend une montre pour minuter la prophétie et le parler en langue. C'est pas ça. Mais combien Dieu qui façonne des gens comme Ézéchias, comme Joseph, combien Dieu transforme nos vies, nous façonne, et combien le fait que Dieu façonne nos vies nous transforme et nous conduit en bénédiction pour nos vies et pour l'Église. Alors je crois que je vais faire un appel, j'en fais pas souvent. Hein, quelqu'un m'a dit un jour, si les gens voient en vous l'appel, prenez aussi la pioche. Ça m'a marqué. Alors simplement, avant de faire l'appel, peut-être on ne se sent pas concerné encore une fois, parce que je sais pas, parce qu'on est un peu fâché, coincé avec le parler en langue, parce qu'on n'a pas reçu un enseignement et qu'il y a des gens qui en ont trop fait ou pas assez, parce qu'on ne se considère pas comme un prophète. Mais ok, parce que tous les gens dont j'ai parlé sont au-dessus du lot, n'est-ce pas ? C'est inatteignable. Mais Christ en nous, l'espérance de la gloire, n'est pas inatteignable. Et Dieu est celui qui nous transforme. Et juste ces deux versets, et je terminerai avant de faire un appel. Nous cheminons, nous sommes en progrès. Il y a un verset qui dit, Paul y dira, ce n'est pas que j'ai atteint le but, mais je cours pour essayer d'atteindre le prix de la vocation céleste. Je n'ai pas atteint le but, je ne regarde plus derrière, mais je regarde devant. Alors, nous ne sommes pas appelés à regarder derrière à nos erreurs. Si nous sommes trompés dans une prophétie, si on n'a pas dit les bonnes choses au bon moment, Dieu est un Dieu de pardon, nous ne sommes pas là à regarder devant. 2 Corinthiens 3, 18. Vous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Nous sommes transformés de gloire en gloire. C'est un beau programme, n'est-ce pas ? Mais à l'homme, ce n'est pas possible. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Alors avant de prendre la scène, alors je vais faire un appel et puis vous pouvez rester assis, vous pouvez vous lever. Mais afin simplement d'accepter que Dieu nous transforme, nous façonne les uns avec les autres et que cela est pour sa gloire. Eh bien, Seigneur, tu es celui qui transforme nos vies, qui nous façonne. Et Seigneur, la vie de l'esprit charismatique, ce n'est pas une recette de cuisine. Mais c'est ta bonté, ta fidélité, et c'est nos vies transformées de gloire en gloire. Seigneur, tu connais le cœur de chacun. Eh bien, puisses-tu toucher chacun, puisses-tu bénir l'Église, nous visiter, Seigneur, nous accorder ton pardon, ta grâce, et nous faire vivre, afin de vivre par l'Esprit et manifester les dons avec sagesse et humilité, Seigneur. Amen.